Eh bien, on vous souhaite évidemment la bienvenue comme Dominique l'a fait tantôt et puis on aimerait souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi sur l'Internet. J'ai appris que l'église de Chibougamau est en train de penser à peut-être diffuser nos messages là-bas à Chibougamau. Ils n'ont pas de pasteur. Donc le Seigneur se sert de tous ces belles outils aujourd'hui. Alors Dieu merci. Vous savez, lorsqu'on commence à parler de la Bible à des gens, peut-être des gens de ton bureau, tu commences à parler des Écritures et tout ça, les gens vont avoir des différentes réactions face à la Bible. Il y en a qui sont très ouverts. D'ailleurs, au Québec, on apprend que plusieurs personnes croient à la Bible, et selon les sondages. Mais une des réactions qu'on va parfois avoir, c'est la personne va nous dire, « Ah, mon ami, la Bible, c'est plein de lois là-dedans, c'est plein de règlements, il y en a qui sont bizarres et tout ça. J'ai tellement de difficultés, j'ai essayé de lire l'Ancien Testament, puis je trouve ça tellement compliqué. » Bien, vous savez, il y a beaucoup de lois, oui, mais ce n'est pas comme le Canada. Savez-vous comment il y a de lois au Canada? C'est épouvantable. On me raconte, on dit, quelqu'un a dit, que juste te mettre à jour pour être sûr que tu ne violes pas une loi au Canada, il y a tellement de nouvelles lois qui s'adoptent à chaque année, puis des ajustements, etc., puis des corrections, des révisions, que juste pour être certain, là, que tu es cachère, là, que tu es correct, puis tu ne violes aucune loi, pour être à jour, pour être au courant de tout ce qui se passe, il faudrait que tu lises l'équivalent de 100 000 pages chaque année. C'est l'équivalent de 250 pages à peu près par jour. Imagine-toi, juste pour être sûr que tu ne violes pas aucune loi. Donc, puis des fois, il y en a quelques-unes qui sont originales. Par exemple, savez-vous qu'il est illégal dans la ville, dans une des villes en Ontario, c'est pas tellement loin de Toronto, c'est illégal de chanter à l'extérieur, de siffler, imagine-toi là, ou de crier. Illégal. Halifax, par exemple, c'est illégal pour un chauffeur de taxi de porter un T-shirt au travail. À Montréal, l'hôtel de Reine-Élisabeth. Mais là, on peut comprendre dans le passé et tout ça, mais apparemment, il y a un règlement à la Reine-Élisabeth doit absolument nourrir gratuitement les chevaux des clients qui viennent louer la chambre. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Au Canada, c'est interdit d'enlever un pansement en public. À Ottawa, Ottawa, notre ville voisine, attention, interdit de prendre la crème glacée sur la rue Bank le dimanche. En Nouvelle-Écosse, heureusement qu'ils ont fait cette loi-là, moi je l'aurais violée, c'est sûr. Il est interdit d'arroser ton gazon quand il pleut. Cherchez l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Hey, je veux vous rassurer, il y en a moins dans la Bible. Et oui, effectivement, il y a des lois dans la Bible. C'est la loi de Dieu. Mais si on veut vraiment apprécier la Bible, et notamment l'Ancien Testament, il faut savoir comment la lire. D'ailleurs, l'apôtre Paul va lui-même dire qu'il y a une mauvaise façon et une bonne façon de lire la Bible, et principalement l'Ancien Testament. Alors, ensemble, on va essayer de comprendre comment lire l'Ancien Testament et pourquoi c'est bon et c'est nécessaire, puis on a besoin de la lire d'une façon régulière. Maintenant, on est en train de regarder une série ensemble. On a commencé une série dans la lettre à Timothée. Et Timothée avait laissé justement, Paul avait laissé justement Timothée dans la ville d'Éphèse pour aller aider l'Église. Il y avait des erreurs qui se glissaient au sein de cette Église. Et il y avait même des fausses doctrines, des erreurs. Et certaines personnes dans l'Église avaient décidé de prendre, ils voulaient gagner de la popularité. Alors, ce qu'ils ont fait, ils se sont mis eux-mêmes anciens en charge de l'Église et ils ont commencé à enseigner différentes portions de l'Ancien Testament. Mais là, c'était vraiment étrange, c'était mystérieux et tout ça, parce qu'eux autres voulaient impressionner la galerie. Donc, ils commençaient à interpréter. Prenez des généalogies dans l'Ancien Testament, des généalogies qui disent juste, il y a ton père, c'est lui, ton arrière-grand-père, c'est lui, puis ton arrière-grand-père, c'est lui, puis grand-maman, puis etc. Bien simple. Ça dit ce que ça dit. Ben non, eux autres ont commencé à prendre la généalogie dans l'Ancien Testament, puis ont commencé à faire toutes sortes de choses mystérieuses, donner une signification profonde et mystérieuse derrière ces généalogies-là et tout ça. Et pourquoi qu'ils enseignaient toutes ces faussetés et ces erreurs au sein de l'Église? Bien, c'était pour prendre de la popularité, puis dire, hey, regarde ça, eux autres, comment ils sont profonds. Hey, ça, c'est des hommes de Dieu. Bien non, c'était de l'erreur, puis ça ne contribuait pas à la santé spirituelle de l'Église. Paul va dire justement à Timothée, écoute, il faut que tu arrêtes ça, là. Ils sont en train de commettre une erreur, parce que ça ne contribue pas à la vitalité, à la vie spirituelle de l'Église. Et on a besoin de saine doctrine. Et d'ailleurs, le mot « saint », on l'a déjà expliqué, le mot « saint » employé par Paul dans Timothée, le mot « saint » veut dire « santé », ça veut dire « vigueur », »,« vitalité », »,« énergie ». Si on veut être en santé comme Église, on a besoin de la saine doctrine, de la bonne doctrine, la doctrine qui est fidèle aux Saintes Écritures. Et l'une des premières choses que Paul va faire, va vouloir corriger, c'est déjà dans le premier chapitre, va vouloir corriger cette erreur-là à l'endroit de l'Ancien Testament. On va lire juste un verset, vous allez voir, ce matin, on va se concentrer sur ce verset-là, et parce qu'on veut justement regarder l'Ancien Testament, dans 1 Timothée, chapitre 1, d'accord? 1 Timothée, si vous avez votre Bible, je vous donne quelques instants pour tourner et trouver 1 Timothée, chapitre 1. On va juste lire verset 8. 1 Timothée 1, verset 8, d'accord? Juste avant, on va demander au Seigneur de vraiment nous éclairer ce matin. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Elle est tellement riche. On veut te prier que par ton Esprit Saint, ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, nous encourager, nous édifier, qu'on puisse sortir d'ici grandi, fortifié par ta sainte parole. Merci pour ce legs, ce beau testament que tu nous as laissé, cette lettre d'amour où tu révèles, tu nous dévoiles ton cœur, où nous pouvons apprendre à connaître l'auteur de ce magnifique livre. Bénis-nous ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes là, 1 Timothée, chapitre 1, verset 8. Nous savons que la loi est bonne. Là, je vous arrête tout de suite là, le mot « loi », ici, qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas des lois du Canada, puis de la province, puis municipale. On parle ici des cinq, c'est comme ça qu'on appelait ça, les Juifs appelaient ça de même, les cinq premiers livres de la Bible, les livres de la loi. Il y a une raison pour ça, on va le voir tantôt, c'est qu'il y a plusieurs prescriptions, plusieurs règles dans ces cinq premiers livres-là, d'accord? Donc, nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais elle est faite pour qui? Pour des pécheurs. L'Ancien Testament est fait pour révéler notre cœur, c'est le premier but, ça, de la loi. C'est là pour révéler l'état de notre cœur. La loi est bonne. En d'autres mots, c'est grâce à la loi que ça révèle la condition pécheresse de mon cœur. Moi, je le vois chaque semaine. Moi, le gouvernement du Québec me rappelle chaque semaine, regarde ton cœur, regarde comment tu es pécheur. Ça veut dire ça? À chaque fois, moi, que j'embarque sur l'autoroute, la 50, puis je vois une pancarte, puis ça me dit, « Normand, maximum, dépasse pas 100 km. » Ah, ben mon ami, là, je suis là dans mon cœur, ça dit, là, puis... Hey, c'est comme si le gouvernement du Québec, tous les jours, me dit, « Regarde comment t'es, là. Regarde comment t'es pécheur, Normand. » Je le sais. Il y en a parmi vous autres, vous n'avez aucun problème avec ça. Vous êtes sage sur la route. Je pense à ma femme ne dépasse pas 100. Ma femme fait du 95, 98. L'autre jour, on s'en va dans un garage, puis j'ai dit, tiens, vas-y, chérie, suis-moi en arrière. Non, attends, oui, suis-moi en arrière, puis tout ça, parce qu'on va se rendre, tu vois, c'est juste pour que tu saches le chemin, puis tout ça. Et mon ami, là, je chauffais, puis ma femme est en arrière, elle faisait, je pense, du 95. Là, j'étais là. L'amour... T'as monté à 100, c'est vrai. Mais là tout d'un coup, j'ai le Saint-Esprit qui popait des versets, tu sais, « L'amour est patient. Oh. » Moi, quand je vois des pancartes comme ça, ça me rappelle comment je suis pécheur. Ça me dit à tous les jours. Je me sens coupable tous les jours, chaque fois. Puis non seulement ça, en plus, il y a un sergent de police qui s'est ajouté à l'église, là, mon ami, puis lui, il m'envoie des textos des fois. « Fais attention, Norman. Fais attention à la vitesse. » Ah, j'ai dit « pas vrai. » La conscience. Mais c'est ça le but. Le but de la loi, c'est de nous montrer, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va dire dans Romains 7, par exemple. Il y a un verset dans Romains 7, ça dit, verset 7, Je n'ai connu le péché, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, j'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce que c'est que la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « convoite pas ». Hein? Un peu plus loin, verset 12, Paul va continuer en disant ceci, il dit « ainsi donc, la loi est sainte, le commandement est saint, juste, c'est bon ». Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. En d'autres mots, ça montre l'état de mon cœur. Et c'est ce qu'il dit essentiellement dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 8. On vient avec ça, la loi est bonne, verset 8, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. En d'autres mots, qu'on comprenne le but, l'un des buts de la loi, c'est de révéler notre cœur, sachant qu'elle est bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les pécheurs. Paul est en train de dire ici qu'il y a une bonne façon de lire et comprendre la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais plus précisément, les 5 premiers livres de la Bible. Mais il faut comprendre que quand on lit l'Ancien Testament, et je sais qu'il y a des chrétiens, des fois, qui commencent à lire l'Ancien Testament, puis ils disent « Ouf, mon ami, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est compliqué. » Et oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien, premièrement, quand on parle de la loi, ici, on parle toujours des 5 premiers livres de la Bible. Et il y a des prescriptions et des restrictions. Il y a des règles dans les 5 premiers livres de la Bible. D'ailleurs, il y a un rabbin à l'époque, un rabbin qui estimait qu'il y avait environ Simlaël, qui il a estimé qu'il y avait à peu près 613 règles dans les 5 premiers livres de la Bible, 365 restrictions, donc fais pas ça, et 248 prescriptions, fais ça, d'accord, dans les 5 premiers livres de la Bible. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël est à la fois un pays, imaginez le Canada là, avec ses lois, je parlais tantôt de 100 000 pages de lois, etc. Bien, Dieu est en train de constituer avec Israël un pays, donc Dieu mettait des lois sur pied pour protéger les citoyens. Donc tu vas voir différents types de lois dans l'Ancien Testament. Par exemple, certaines lois portent sur des infractions criminelles graves, d'autres sur des litiges civils entre citoyens. Un nombre de lois vont être liées à la famille, par exemple, le mariage, le divorce, l'éducation des enfants. Des lois religieuses aussi, parce que Israël est à la fois un pays, mais en même temps, c'est théocratique. Ils vont adorer Dieu. Alors Dieu va donner des lois pour protéger la société, donc des lois civiles, criminelles et tout ça. En même temps, il va donner des lois sur les pratiques religieuses, comment adorer Dieu, le Dieu trois fois saint. Donc, tu auras des lois religieuses qui réglementent tout le système de sacrifice dans l'Ancien Testament et la pratique religieuse en Israël. Certaines lois sont des exhortations à montrer de la compassion et à prendre soin des gens, prendre soin des démunis. On voit ça dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces lois-là, ce mixage de toutes ces lois dans l'Ancien Testament? Devons-nous obéir à toutes ces lois de l'Ancien Testament maintenant que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui est plus en force aujourd'hui et qu'est-ce qui reste? Bien, certaines lois ne sont plus accessibles, plus praticables pour nous, alors que d'autres le restent. Premièrement, les lois qui traitent des questions civiles ne sont plus en force pour l'Église. L'Église, maintenant, est le peuple de Dieu. C'est le Israël d'aujourd'hui, là. Donc, comme citoyens canadiens, nous avons plein de lois au Canada auxquelles on se soumet. Et volontairement, nous sommes des citoyens responsables. On veut se soumettre au gouvernement et à ces lois-là. Mais alors, ça c'est pour les lois civiles, criminelles, et ça, c'est le pays. Alors, on sait maintenant que les lois de l'Ancien Testament qui portent sur toutes ces questions-là juridiques et légales pour protéger les citoyens, on a pu aller pratiquer. Oui, on les pratique, mais on les pratique au Canada. Version canadienne, si vous voulez. Deuxièmement, toutes les lois religieuses qui sont accomplies en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons plus à observer ces lois religieuses, de pratiques religieuses. Par exemple, on n'a plus à offrir un sacrifice toutes les années et régulièrement des sacrifices avec un agneau au temple pour espérer avoir le pardon de nos péchés. Ce n'est plus nécessaire. De toute façon, ces sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament ne réussissaient jamais, c'était jamais parfait, à pardonner tous les péchés. Donc, Jésus, lui qui était parfait, était l'agneau parfait, a été offert à la croix, et lorsqu'il est mort, il prenait nos péchés sur ses épaules, et lorsqu'il est ressuscité, revenu à la vie, c'était le message de Dieu comme quoi qu'il acceptait ce sacrifice pour le pardon de tous nos péchés. Amen? Prenons les lois alimentaires de l'Ancien Testament, plein de lois en regard à toute la question d'alimentation. Qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? On voit Jésus qui va dire à Pierre, « Maintenant, Maintenant, là, tu peux manger de tout ce qu'on va te présenter. Donc, hey, alléluia pour le bacon. Hein? Amen. Pour ce qui est de la loi morale, elle continue, par exemple, vois-tu? Elle va continuer. De toute façon, on le voit se répéter, se poursuivre dans le Nouveau Testament. Aime ton prochain, aime Dieu de tout ton cœur. Ça, la loi morale, elle va continuer, va persévérer. Le Dieu de l'Ancien Testament ne change pas. Donc, l'Ancien Testament nous révèle qui est Dieu. C'est pour ça qu'on veut lire l'Ancien Testament. On veut connaître ce Dieu-là de l'Ancien Testament. Nous apprenons sa sainteté, on voit sa puissance à travers plusieurs événements, à travers l'histoire, comment il est souverain, il contrôle même les rois des pays, même des rois incroyants. Et il répond aux prières, de Daniel. Aussitôt que Daniel ouvre la bouche pour prier, c'était déjà entendu au ciel et Dieu envoie un ange. Et on voit ces choses dans l'Ancien Testament. On apprend à connaître l'ampleur de l'amour de Dieu. On apprend à connaître la patience de Dieu. Alors que Moïse est prêt à lancer la serviette puis de balancer tout le peuple d'Israël, il dit, moi, je ne suis plus capable. Dieu dit, non, attends, sois patient. On voit sa compassion, on voit son amour, on voit sa justice, sa sainteté, le protéger, le démuni, les veuves. Et c'est ce qu'on apprend dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. Ça se poursuit dans le Nouveau. D'ailleurs, on voit déjà dans l'Ancien Testament l'importance que Dieu va mettre sur les relations. Relations avec lui, évidemment, mais la relation avec les autres. Quand on passe à la question « Quelle est la loi la plus importante dans la loi de Dieu? » Bien, Moïse va faire un beau résumé. Il va sortir 5 éléments. Et qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 10? La crainte de Dieu. 2. Marcher selon sa parole. 3. Aimer Dieu. Le servir et l'obéir. Même chose dans le Nouveau Testament. Michée va raccourcir ça. Alors, de 5, il passe à 3. Et vous vous en souvenez, parce qu'on le chante, n'est-ce pas? Ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Michée 6:8. Finalement, Jésus, lui, va aller réduire encore à 2, encore plus petit. Moïse 5. Michée 3, Jésus 2. C'est vraiment intéressant. Jésus va dire, on raconte l'histoire dans Matthieu, d'un pharisien, à un moment donné, vient voir un pharisien, un spécialiste de la loi, vient voir Jésus pour lui demander, « Maître, quel est le plus grand commandement? » Hey, c'est une bonne question, ça. Mais là, il faut comprendre ce qui se passe en arrière. Les pharisiens, en fait, voulaient piéger Jésus. C'est clairement dans le contexte, les pharisiens voulaient piéger Jésus, veulent le faire mourir, ils essaient de le mettre dans un coin. Et il faut savoir aussi que les Juifs avaient, les rabbins et les chefs religieux de l'époque avaient depuis des années, multiplié les lois, parce qu'eux autres, c'était pas assez ce que Dieu avait dit, donc ils montaient. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tu as une loi sur le sabbat. Dieu donne une loi sur le sabbat. Il dit, regarde, pas compliqué, une journée par semaine, travaille pas, repose-toi, puis glorifie le Seigneur. Pense à Dieu. Profite de cette journée-là. Ton corps, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai créé, je sais, ton corps a besoin d'une journée de repos. C'est vraiment intéressant parce que les Russes ont fait des études à un moment donné pour savoir quel était, on ne parle pas de croyants, là, quel était le nombre de jours que tu peux travailler où l'homme est le plus rentable, la femme la plus rentable et la plus efficace. Vous savez combien? Ces jours. Il y a besoin de repos d'une journée. Dieu, dans l'Ancien Testament, déjà, il dit, écoute, moi je connais, c'est moi qui t'ai fait, prends une journée de repos par semaine. Mais vous savez quoi? C'est pas compliqué, c'est simple, hein? Vrai? Alors, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont dit, bien là, ouais, mais c'est quoi le travail? Alors, il faut élaborer des lois pour expliquer c'est quoi quand tu travailles, quand tu ne travailles pas. Donc, ils ont monté, savez-vous combien de lois? Ils ont créé, adopté 1500 lois sur le sabbat, sur le travail. Puis c'est farfelu, là. Par exemple, le transport, quand tu transportes quelque chose, tu travailles. Ah, bien là, le jour du sabbat, c'est le jour où tu n'as pas le droit de travailler. Donc, on a décidé que tu ne peux pas transporter de la nourriture plus que l'équivalent du poids d'une figue séchée. Figue. Le lait, par exemple. Tu veux transporter du lait. Oh, là, par exemple, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu travailles. Il ne faut pas que tu dépasses la limite pensant ça, c'est du travail, puis là, tu vas violer le sabbat. Donc, le lait. Tu ne peux pas transporter de lait plus que l'équivalent d'une gorgée. Deux gorgées, tu violes le sabbat. On avait décidé, par exemple, que le samedi, tu n'avais pas le droit, bien, le jour du sabbat, tu n'avais pas le droit de faire un nœud. prendre une corde, faire un nœud. D'accord? Un homme n'avait pas le droit de faire un nœud. Mais la femme pouvait faire un nœud avec sa ceinture. Regardez bien ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu fais d'abord si tu veux aller au puits, attacher une chaudière, hein? Faire descendre, attacher, faire un nœud à une chaudière, hein? Faire descendre la chaudière dans l'eau, puis la tirer. Oui, mais tu n'as pas le droit de faire de nœud. Ah, ben oui, ben t'as pu. Qu'est-ce que le gars a fait? Il s'en va chercher la ceinture de sa femme. Ben oui, elle a le droit de faire un nœud. Hé, hey, chérie, viens ici. Viens faire un nœud. La chaudière, attache la chaudière, descend dans le puits, va chercher de l'eau. Hé, hey, non, mais écoute. Le pharisien vient voir Jésus et dit, écoute, c'est quoi le commandement le plus important? Jésus, c'est ça, là. Jésus est au courant de tout ça, là. Jésus va répondre, écoute, c'est pas compliqué, il y en a juste deux. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Voici le deuxième. Aime ton prochain comme toi-même. Et puis là, c'est vraiment intéressant ce que Jésus va ajouter. Il ajoute un petit détail au verset, vraiment intéressant, au verset 40. Il dit, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Le mot original ici, « dépendent », c'est vraiment intéressant parce que littéralement, ça dit, « De ces deux commandements sont cloués toutes les autres. » Regardez bien ce qu'ils faisaient les pharisiens. Les pharisiens allaient en place publique, là, puis ils mettaient leur liste de lois. Paquet de listes, ça ne finissait pas tout, à la place publique. Puis là, ça ne finissait pas, puis c'était un fardeau pour les gens. Un fardeau, parce que là, tu n'étais jamais, tu te dis, écoute, je ne suis pas capable de suivre ça, puis tout ça. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vais vous donner du repos pour votre âme. Mon joug, le mien, est doux. Alors Jésus dit, sais-tu quelle loi tu devrais mettre puis accrocher sur le poteau, là? Va clouer ça à la place. Aime Dieu tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, Paul dit à Timothée, l'un des buts, c'est de révéler notre cœur pécheur. Parce qu'après tout, qui après nous aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, à la folie en tout temps? Qui aime son prochain comme soi-même, sur le boulevard, sur la rue, sur Montépaiement, à 8h le matin, quand il y a un paquet de monde, ça te coupe, puis tout ça, puis ça, allez, let's go, ça te pousse, puis tout, puis ça, mon ami. Comment aimer ton prochain? Écoute, je suis pécheur. Mon ami, en lisant l'Ancien Testament, tu arrives à la conclusion, hey, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur qui va changer mon cœur, parce que moi, mon cœur, c'était un cœur pécheur. Alors, voici le deuxième but de la loi. Le premier but de la loi, n'est-ce pas, c'est de révéler mon cœur. Deuxième but de la loi, c'est de nous pointer vers Jésus. Si quelqu'un prend la Bible et te demande cette question, de quoi ça parle la Bible? Est-ce que c'est un livre qui nous montre comment on devrait mener notre vie? Est-ce que c'est un livre d'histoire, un livre qui va nous parler, qui relate la biographie de grands géants et des héros, et des femmes héros, et des hommes héros qui ont leadé le monde? Comment ils ont vécu, les bons modèles, les mauvais modèles à suivre, leurs succès, leurs échecs? Quelle est la grande idée, la big idea de toute la Bible? Ça parle de quoi, ce grand livre-là? Ça parle, mes chers amis, d'une chose. Toute la Bible porte sur Christ. Toute la Bible porte sur Jésus. Jésus lui-même a dit dans le Nouveau Testament, dans Jean 5, « L'Ancien Testament rend témoignage de moi. » C'est Mike Bulmore qui a dit, « L'Ancien Testament est enceinte. » Il y a un enfant qui se prépare dans le ventre de l'Ancien Testament et c'est Jésus qui va naître rendu au Nouveau Testament. Amen. Tout l'Ancien Testament est enceinte avec Jésus qui s'en vient. Tout l'Ancien Testament pointe vers celui qui s'en vient. Que Jésus-Christ. On pense à Jésus sur le chemin d'Emmaüs alors qu'il est ressuscité, mais les disciples ne savent pas, commence à parler à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les livres de Moïse et il commence à lui parler comme quoi que les livres de Moïse étaient en train de témoigner déjà de lui. On pense aussi à l'Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, un prophète qui a été écrit plusieurs centaines d'années dans l'Ancien Testament. Et là, Philippe vient le voir et lui dit, écoute, c'est-tu c'est qui ça parle, ça? Il dit, non, je ne comprends pas, je suis en train de lire Ésaïe, ce serviteur souffrant, je ne comprends pas. Et Philippe de dire, ça parle de Jésus. On ouvre les psaumes, chaque partie de la Bible évoque le Christ à sa façon. Il est l'espérance des patriarches, il est l'ange du Seigneur. Puis dans Exode et Deutéronome, il est le rocher de Moïse, il est celui qui accomplit la loi cérémoniale puisqu'il nous purifie, la loi morale puisqu'il mérite la bénédiction à cause de sa vie parfaite et juste. Il est le dernier temple, il est Jésus, le commandant de l'armée de l'Éternel, Josué. Il est le vrai roi d'Israël, en fait, il est le vrai Israël. On ouvre les psaumes, les chants de David, où Jésus est le doux chanteur d'Israël, nous apprenons dans le livre aux Hébreux. Dans les prophètes, il est le roi promis, il est le serviteur souffrant, celui qui guérit le monde. Dans les proverbes, il est la vraie sagesse de Dieu. Et pour ceux qui sont sauvés, la croix est la sagesse de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 1. Chaque genre, chaque partie de la Bible nous oriente vers Jésus. L'Ancien Testament prédit Jésus, les évangiles révèlent Jésus, les actes prêchent Jésus, les épîtres expliquent Jésus et l'Apocalypse attend Jésus. Amen. Jésus est l'accomplissement de la loi. Toutes les lois requises et tout ça dans l'Ancien Testament pour plaire à Dieu, par lequel on pouvait s'approcher de Dieu. On n'était pas capable, on était perdu, mais Jésus a tout accompli cela. Et maintenant, nous avons le plein pardon, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Alors, on a besoin de considérer toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau, comme décrivant la révélation progressive de l'histoire du salut de Dieu pour l'humanité. Et chaque livre contribue à nous aider à voir ce plan de salut-là qui se déploie. En gros, si on prend la première page de la Bible jusqu'à la dernière, on voit ce pattern, ce cycle de la création, la chute et la rédemption et la restauration. Alors, on a besoin de nous exposer à la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, on vous a donné un bulletin. Ici, il y a un bulletin disponible juste à l'entrée au kiosque qui montre, c'est la Bible en un mot, c'est une petite feuille, la Bible en un mot qui vous montre comment, qui résume chaque livre de la Bible, dans le fond, juste avec un petit mot, la Bible en un mot. Vous pouvez insérer ça dans votre Bible et lorsque vous commencez à lire un nouveau livre dans les Écritures, c'est toujours bon de voir qu'est-ce qui va ressortir de plus fort, quel est le message qui va sortir de tout ça. Et c'est au kiosque. C'est gratuit, mais je n'ai pas de problème à recevoir de l'argent si vous voulez m'acheter ça. Là, c'est... Écoute, non, c'est juste une blague. C'est gratuit, allez-y. Alors, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de lire, de connaître, l'étudier, de méditer. Nous avons besoin de la partager aussi. Parce que la parole de Dieu, c'est le seul message qui a le pouvoir de donner la vie spirituelle. Dans Hébreux 4, 12, par exemple, la parole de Dieu, voici ce que ça dit, Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Chers amis, la parole de Dieu est vivante. En fait, le texte dit, parle de vivant, mais littéralement, ça dit plein d'énergie, de puissance. Alors, c'est une force vivante qu'aucun livre humain ne peut t'offrir. Ça ne se compare pas à aucun autre livre. Prends tous les livres sur la face de la terre, les livres des plus grands philosophes, les plus grands penseurs, les plus grands poètes, ça n'arrivera jamais à l'achever de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est non seulement vivante, elle contient le pouvoir de donner la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Dans Jean 6, 36, par exemple, nous disons, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans Jacques 1, 18, nous lisons, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité. Encore et encore, la parole de Dieu se présente elle-même comme étant la source de notre vie spirituelle. C'est la parole de Dieu qui produit l'étincelle de vie en vous. Et vous pouvez prendre tous les livres du monde, ils n'arriveront pas. Aucun livre au monde ne peut donner la vie à des gens qui sont spirituellement morts. Aucun livre n'a changé la vie d'autant de gens, puis encore aujourd'hui, à travers le monde entier, comme la parole de Dieu l'a fait. La Bible renouvelle, transforme des cœurs en lui procurant une vie spirituelle. Elle va changer ton caractère, elle va te transformer. La Bible est le seul livre qui peut littéralement changer notre cœur. Elle peut changer nos désirs, nos motifs, nos pensées, nous donner une nouvelle vision du monde. La parole de Dieu va réorienter, réorganiser toutes ces choses. Elle va nous purifier, elle est un agent de purification. Tu t'exposes aux Écritures et elle est, ce que, pour employer le terme de la Bible, sanctifiante. Elle va nous rendre plus saints. D'ailleurs, c'est Jésus qui dira dans Jean 17, « Consacre-les, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est vie, elle est pleine de vitalité. Aucun livre humain peut faire ça. Elle transforme, elle change les vies. Puis on a besoin de la lire, de la méditer, on a besoin de la répandre aussi. Je parlais vendredi à mon fils Luc, et qui me disait qu'il fait partie d'une équipe qui s'appelle Rédemption. Et puis, c'est quelques personnes, quelques chrétiens qui s'en vont à différentes stations de métro à Montréal, puis à Longueuil. Et je vais vous donner des photos ici, j'en ai préparé quelques-unes pour vous autres. Ils vont à des... Ça, c'est la station Mont-Royal. Ils partagent l'Évangile aux gens. Et puis, vous voyez les chandails, c'est Rédemption. Et ça, ici, c'est celui de Longueuil. Mon fils fait partie de ce groupe-là à Longueuil. Une fois, il est allé me raconter vendredi qu'il est allé dans une... C'était entre deux wagon là, qui passait, c'était tranquille. Puis il y avait deux gars qui étaient assis sur un banc qui attendaient le wagon, le métro. Et puis, il y en a un qui mangeait la pizza, puis il y avait un autre qui était à côté de lui. Et là, mon fils était là, puis c'est comme si le Seigneur lui disait, « Va parler à ces gars-là de Jésus. Va lui partager l'Évangile. » Et il est allé, finalement, il est allé s'asseoir à côté du premier, et il a commencé à lui jaser, il a commencé à parler. Et pour finalement, le gars a commencé à s'ouvrir, puis a commencé à raconter à mon fils que finalement, lui avait été embauché par les Hells pour faire de la collection. Lui faisait de la collection, son chum qui était à côté faisait de la collection pour la mafia russe. Et les deux étaient là. Et là, mon fils a commencé une relation avec lui, il a commencé à prendre des cafés avec lui, ils sont sortis de temps en temps, il l'a emmené à l'église et tout ça. Avec le temps, le gars s'est ouvert, puis exprimé à mon fils. C'est-tu, Luc, la journée que tu es venu me parler de l'Évangile, la journée que tu es venu me présenter l'Évangile, cette journée-là, je m'en allais me suicider. Une vie complètement transformée. Il a donné sa vie à Jésus, il s'est converti, puis il donne son témoignage. Le gars raconte que depuis que Jésus est dans sa vie, il n'a plus le goût de s'enlever la vie, il a quitté le monde criminel, il a un travail honnête, il ne consomme plus de drogue, il est impliqué dans son église. Vous savez ce qu'il fait dans son église? Il travaille dans la sécurité. Pas mal tranquille dans l'église là-bas, ça comme... pas de niaisage. Il a donné son témoignage dernièrement, il a dit « Dieu existe bel et bien ». S'il y a un gars là, qui sait que Dieu existe, c'est vraiment lui, là, s'en est suicidé. Il dit, il répond concrètement à mes prières et fortifie ma foi. Il m'écoute, me guide, me corrige et m'aime en tout temps. Chers amis, est-ce que la parole de Dieu a touché certains d'entre vous? Est-ce qu'on ne peut pas louer le Seigneur, hein, donner une main d'appréciation à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies? Hey, vous êtes capables mieux que ça, les frères là, et sœurs. Hein? Une ovation même. Une ovation, des vies transformées. Je pense qu'on peut faire un standing ovation à Dieu. Fort, je veux vous entendre fort, fort. Allez, gloire à Dieu! Amen.